Bonjour à tous. Buen día, tú también, Max. Yo estoy bendiga. Alors, on aurait dit que vous m'attendiez. J'ai presque ce sentiment-là. Bonjour Manon, le bonjour au bien-aimé André qui est probablement à tes côtés. Bonjour Claude, là je parle de Claude Bernard, le frère du pasteur André. Max, je t'ai salué. Émilie, Dieu te bénisse. Si Vlad est avec toi aujourd'hui encore, un petit bonjour de son côté. La sœur Flori, probablement avec le frère Louis, Dieu vous bénisse. Ça fait un peu loin, on va voir qui est là. Oh, ça défile. Le frère Guy Légaré, bonjour. La sœur Rachel, Dieu te bénisse avec toutes tes comparses. Je vais baisser le volume ici. Voilà. Guy, je l'ai salué. Marc et Nathalie, Dieu vous bénisse. Mon père est là. Probablement ma mère, pas tellement loin de là non plus. Dieu vous bénisse. Louise et Michel, Dieu vous bénisse. Diane, Dieu te bénisse. Pamela, Dieu te bénisse. Bon matin, Samek, Dieu vous bénisse. Yann, hello. Laetitia, bien le bonjour. Thérèse, Dieu te bénisse. Nicole, encore une joie de t'avoir parmi nous, sois bénie. Pascal, que Dieu vous bénisse. Nous vous gardons dans la prière. Bonjour Karine, Dieu te bénisse. Bonjour à la sœur Bernadette qui est avec mes parents. La sœur Myriam, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je me demande si mon épouse ne s'est pas branchée pour être webmestre. À moins que ce soit le frère Yann. Alex, Dieu te bénisse. Isaac, Dieu te bénisse. Jacqueline, Dieu te bénisse. Non, c'était le frère Yann en fin de compte. Donc ma femme est effectivement en train de travailler. Bonjour Denise. Dieu vous bénisse depuis Sainte-Adèle. Bonjour Soul, bonjour à Raymond. Comme vous avez vu, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans le passage qui nous servira de réflexion pour ce matin, dans Jean au chapitre 8 et chapitre 9, à cheval sur les deux passages. Hélène, Dieu te bénisse, le bonjour à Karl, avec qui je fais de la conjugaison ces derniers temps. Karl, j'admets que le verbe d'hier prêtait à confusion. La version, pour que vous sachiez, la question était de savoir comment on conjugue le verbe fuir à la troisième personne du singulier au passé simple. La version très rapide, c'est qu'on aurait, pour la plupart d'entre nous, dit effectivement « il fuya ». Donc, je fuyais, tu fuyas, il fuya, nous fuyâmes, vous fuyâtes, ils fuyèrent. Mais c'est pas la bonne réponse. Je vous laisse aller chercher dans le Becherel quelle est la bonne réponse. Là, ça défile un peu trop vite pour moi. Désolé, Denise, que vous ayez un petit problème d'internet chez vous. Ramon, Dieu te bénisse. Hermano Edwin, Dieu vous bénisse. À vous et à Aïdé. Gérard. Andrés, Dieu te bénisse. Pierre, que Dieu te bénisse. Daphnis, Dieu te bénisse. J'ai bien dit Daphnis et non Daphné pour ceux qui écoutent. Daphnis, c'est Daph Victor dans son pseudonyme sur Facebook. Est-ce que bébé est arrivé, Daphnis? Tu dois m'envoyer une petite note pour me dire là. Sinon, il faut me dire quelle date il est supposé arriver pour que je ne répète pas toujours la même chose. Mais il faut me dire. Et effectivement, Yann. Mais ça, non, on fuit, ça c'est le passé composé. Le passé simple, c'est pas ça. Passé simple, troisième personne du. Ok, tu as mis le on. Tu as fait une faute d'orthographe au on. C'est effectivement il fuit, elle fuit, on fuit. FUIT, conjugaison du verbe fuir à la troisième personne du singulier au passé simple. Je suis convaincu que si on avait fait l'exercice parmi nous, plusieurs auraient effectivement dit il fuya. Bonjour Soraya, Dieu te bénisse. Bonjour Léo, Dieu te bénisse. Bonjour à Chantal, qui est probablement à tes côtés. Ok, alors, on va commencer ce matin. Comme je vous ai dit, le passage qui va être lu ce matin est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 8, le dernier verset. Et après ça, on va dans les premiers versets du chapitre 9. Mais prions pour débuter ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant afin de plonger nos regards dans ta parole. Nous prions, Seigneur, que cette parole trouve aussi aujourd'hui une terre qui t'est propice, qui a été travaillée, afin de recevoir, Seigneur, l'enseignement que tu as pour nous. Nous prions, Seigneur, que plantée dans nos vies, cette parole puisse s'enraciner, changer et transformer, Seigneur, notre existence, notre compréhension de ta volonté pour nous, notre compréhension de notre vécu pour toi. Et Seigneur, que cette parole non seulement s'enracine, mais puisse croître, et qu'en croissant, Seigneur, elle porte un fruit qui t'est agréable, de ce côté-ci de l'éternité, mais qui dure et perdure jusque dans l'autre côté de l'éternité. Nous prions, Seigneur, que les fruits qui découleront de cette parole soient des fruits, Seigneur, qui servent à l'avancement de ton royaume, qui nous permettent, Seigneur, d'être un peu plus près des plans et des desseins que tu as pour nous. Alors, Seigneur, si tu veux arracher quelque chose dans nos vies, nous te disons, tu peux le faire. Si tu veux, Seigneur, abattre quelque chose dans nos vies, nous te disons, Seigneur, fais-le. Si tu veux, Seigneur, changer, transformer quelque chose dans nos vies, nous te disons, Seigneur, n'hésite aucun temps, aucun moment. Et si, Seigneur, tu veux ensemencer quelque chose de nouveau, nous te rendons simplement grâce. Sachant, Seigneur, que ce que tu fais est parfait. Sachant, Seigneur, que tout ce que tu fais à notre égard est motivé par ton amour envers nous, envers ma sœur, envers mon frère et envers moi-même. Alors nous nous soumettons à ta volonté, sachant que celle-ci dépasse notre entendement, mais qu'elle est parfaite, aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Aide-nous à comprendre ta parole et aide-nous, Seigneur, à prendre les décisions qui s'imposent aujourd'hui même. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, Jean chapitre 8, le verset 59. Et après ça, on continue tout de suite dans les versets qui suivent dans Jean au chapitre 9. Jean 8, 59 nous dit: là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Le chapitre suivant, chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », ce qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Une histoire qu'on a certainement abordée régulièrement dans les enseignements, dans l'école du dimanche, lorsqu'on était enfant et qu'on grandissait dans l'église. Mais j'aimerais faire sortir quelques petits points peut-être importants ou qui semblent anodins dans notre lecture rapide qu'on fait habituellement de la parole de Dieu, malheureusement. On nous parle au verset 59 que Jésus sort du temple et que de cette visite au temple, on est prêt à le lapider. On nous dit qu'on prend des pierres pour les jeter contre lui, mais que Jésus se cache, et le verbe ici se cacher, c'est qu'il passe inaperçu aux yeux des gens qui, quelques secondes plus tôt, de façon miraculeuse, il passe inaperçu auprès de ces gens qui voulaient le lapider. Et on nous dit qu'il s'en va. Mais en s'en allant, et c'est là qu'on arrive au chapitre 9, on nous dit qu'il voit un homme aveugle de naissance. Premier point, Jésus n'est pas perturbé par les circonstances difficiles ou par l'opposition qui lui est soumise. Jésus aurait pu tout simplement s'arrêter et puis ne pas se préoccuper de l'aveugle, disant « Ben, hey, je viens de sortir d'une épreuve tellement grande derrière, on a voulu me tuer. » Et probablement que, humainement parlant, dans notre façon de réfléchir très humaine, on aurait dit « Ben, c'est tout à fait logique, en sachant par quoi il vient de passer, il a besoin d'une pause, il a besoin d'un repos. » Et au contraire de cela, Jésus va tout de suite remarquer l'homme aveugle qui est au bord de la route. Donc, une des choses qu'on doit comprendre pour nous ce matin, c'est que les situations difficiles, voire même particulièrement douloureuses de nos vies, ne doivent pas signifier un stop, une pause, à l'effet profitable que nous devons être pour le royaume de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas parce que les circonstances se liguent contre nous, ce n'est pas parce que les situations autour de nous sont défavorables que nous devrions être en pause au niveau de notre productivité face au royaume de Dieu. Jésus, même sous la menace d'être lapidé, malgré tout, va continuer à faire son boulot pour le royaume des cieux. Et si nous sommes des suiveurs, des imitateurs de l'exemple que Jésus a été, alors dans des circonstances telles que nous connaissons actuellement avec la COVID-19, avec le confinement, nous devrions avoir à cœur de continuer à être profitables en dépit et malgré la situation actuelle. Deuxième point important, une situation qu'on rencontre très régulièrement dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, dans l'Église en général. Jésus voit un homme aveugle et ses disciples lui font la question, « Rabbi », qui veut dire « maître », explique-nous qui a péché, cet homme ou ses parents ?» C'est souvent la situation qu'on rencontre dans l'Église. Quelqu'un passe par une situation difficile et tout de suite la réaction qu'on a, oh, il doit avoir péché. J'ai entendu le cas de parents qui sont proches de moi, d'un jeune couple proche de moi, qui à un moment donné était passé par des moments difficiles avec la perte de deux poupons avant même la naissance. Et quelqu'un se présente devant eux et leur dit, regardez, si vous êtes passé par ça, c'est assurément que vous avez quelque chose à mettre en règle devant Dieu. Ici, Jésus va leur dire, c'est même pas important de savoir qui a péché et si l'un ou l'autre a péché. En fait, quand il va expliquer la chose, il dit, c'est même pas une question que les parents ou le jeune homme a péché. C'est une question pour autre chose, celle qui est de voir la gloire de Dieu se manifester. Et les épreuves qu'on a dans notre vie, il faut arrêter de regarder ça. Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de Dieu? Le COVID-19 actuellement. Alors là, l'humanité chrétienne ou la masse chrétienne est divisée en trois camps. Ceux qui y voient le diable, ceux qui y voient un jugement de Dieu, et ceux qui continuent leur chemin, peu importe que ça vienne de l'un et de l'autre. Et je vous dirais personnellement que je suis dans ce troisième groupe. Ce n'est pas important de savoir est-ce que ça vient du diable ou est-ce que ça vient de Dieu. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que moi je continue à faire mon travail en dépit des circonstances. L'important pour lequel tu auras des comptes à rendre à Dieu, c'est pas d'avoir déchiffré « Oh, j'étais conscient, ça venait du diable et Dieu me l'a confirmé. » Tu pourras pas te présenter devant Dieu et dire « Seigneur, je savais que c'était un jugement qui venait de toi. » Tu seras appelé en jugement si tu n'as pas fait ton travail. Je serai appelé en jugement si je n'ai pas fait mon travail. Et soyons honnêtes, très souvent, notre façon de faire à essayer de trouver un coupable quant au péché, quant à la situation défavorable qu'on vit, essayer de trouver, ben, t'as été dans le péché ou ce sont tes liens ancestraux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois dans telle problématique ou telle autre problématique. Très souvent, c'est tout simplement un esprit de jugement qu'on manifeste, une pensée de jugement que nous manifestons. Ici, Jésus va avoir compassion pour cet homme aveugle, sachant qu'il est né aveugle et qu'il a besoin d'une intervention et que cette intervention ne peut venir que de Dieu. Jésus va être ému envers cet homme, va avoir de la compassion envers cet homme. Alors que nous, régulièrement, lorsqu'on cherche qui est le coupable et qui a commis le péché, très souvent c'est pour afficher, pour démontrer, pour prouver aux uns et aux autres qu'on a effectivement un don de discernement, un don de connaissance, de parole de connaissance. Tu as peut-être le don de parole de connaissance, mais je me demande, as-tu vraiment le don? Ou, j'ai parlé pour moi, le « tu » était le « on » anglophone. On a peut-être un don de connaissance, mais on n'a probablement pas le don de sagesse, parce que si on avait eu le don de sagesse, on aurait probablement dit les choses différemment. Alors aujourd'hui, ne nous arrêtons pas à savoir est-ce que ça vient du diable ou ça vient de Dieu. Arrêtons-nous à savoir à la fin de la journée est-ce que j'aurais fait mon travail pour le Seigneur. Ce qui était important ici, c'est que cette situation de l'aveugle devait servir à la gloire de Dieu. Regardons encore le verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pour Jésus, toute situation était propice à la gloire de Dieu. Si Jésus était corporellement, humainement parlant, parmi nous aujourd'hui, la COVID-19 serait pour lui l'occasion de travailler pour son Père. Nous qui sommes chrétiens, la COVID-19 doit être l'occasion pour nous de travailler pour Dieu. Il dit, bientôt la nuit vient et on ne travaillera pas dans la période de nuit. Aujourd'hui, il fait jour. Aujourd'hui est une journée de salut. Aujourd'hui est une occasion encore appropriée bien que peut-être plus difficile, bien que peut-être rempli de plus de challenges, mais l'occasion est encore propice à travailler pour le Seigneur. Alors la question pour toi et pour moi, ce soir quand on va aller se coucher, ce soir lorsque tu devrais faire le bilan de ta journée, pourras-tu dire que tu as été profitable pour le royaume de Dieu? Pourras-tu dire que ton maître Jésus a trouvé que ton travail, que ton activité a été profitable? Je sais, plusieurs se reposent. Je sais, plusieurs vont prendre ce moment pour se restaurer au niveau du temps de fatigue qu'ils ont accumulé et au niveau du temps de repos qu'ils ont besoin de prendre. Mais à un moment donné, tu dois aussi te demander, ce soir, est-ce que j'ai fait mon travail? Est-ce que ce matin, lorsque j'ai rencontré telle ou telle personne, j'ai fait mon travail? Est-ce que cet après-midi, j'ai profité des heures qui m'étaient données pour faire un travail qui est profitable pour le royaume de Dieu? Jésus va dire, je le fais parce que pour l'instant, il fait jour, mais bientôt, il va faire nuit. Donc, Jésus est conscient que le temps passe, que le temps vient à presser. Nous sommes dans une époque où le Seigneur nous dit de racheter le temps. Racheter le temps, ça veut dire dépasser le temps, aller plus vite que le temps ambiant. Ça veut dire profiter de chaque instant qui passe pour faire en sorte d'accomplir un travail pour le royaume de Dieu. Peux-tu dire que même en dépit de la COVID-19, tu es effectivement en train de racheter le temps, de profiter à bon escient, de profiter de profiter de façon ça va être redondant, de profiter de façon profitable de ton temps. Est-ce que Dieu te regarde et il est content, il est réjoui? Est-ce que Dieu est satisfait de l'emploi du temps que tu as actuellement? Es-tu oui ou non profitable pour le royaume de Dieu? Jésus va faire quelque chose qui est spécial par la suite. Il va envoyer l'aveugle, après avoir craché au sol, fait une espèce de pommade ou de boue qu'il a appliquée sur les yeux. Il va envoyer l'aveugle, cet homme, à la piscine de Siloé pour qu'il puisse se laver. La piscine de Siloé veut dire « envoyer ». Et on pourrait regarder ce terme-là et simplement ne pas s'interroger et dire, ben, il l'a envoyé. Ça veut dire qu'il l'a pris ici, près du temple, il l'a rencontré, puis il l'a envoyé à Siloé. Mais envoyé, qui est utilisé ici, a un sens tout à fait particulier. Siloé, c'était effectivement en grec ou en hébreu, siloa, qui voulait dire envoyé. Mais quand on explique le terme envoyé, c'est un mot que vous connaissez très bien. Le mot « envoyé » en grec, c'est le mot « apostalio ».« Apostalio », duquel on a en français un dérivé qui serait « apôtre »,« apostolique ».« Apostalio » veut dire « qui est mis à part ». Donc Jésus l'envoie se nettoyer la figure, les yeux, à Siloé, dans un endroit où nous sommes mis à part. L'action de Jésus dans la vie de cet aveugle va marquer sa vie, va faire que sa vie va changer du tout au tout. La présence de Jésus dans ta vie a-t-elle modifié le cours de ton existence? La présence encore actuelle de Jésus, est-ce qu'elle modifie le cours de ton existence? Est-ce que la présence de Jésus dans ta vie a une incidence majeure sur ta vie? La vie de cet homme ne sera plus jamais la même. Il était aveugle mendiant hier, demain il doit se trouver un boulot. Demain il ne pourra plus mendier parce qu'il n'a plus aucune raison de mendier. Ça veut dire que de cet état de mendiant, il part à un état de travailleur. Lorsque Jésus vient dans ta vie, autrefois tu étais mendiant pour le salut, mendiant pour la vie éternelle. Mais le jour où Jésus vient dans ta vie, tu dois devenir travailleur. mis à part pour une fonction, mis à part pour une œuvre, mis à part pour un travail dans le royaume de Dieu. Peux-tu dire effectivement qu'aujourd'hui, tu es un travailleur dans le royaume de Dieu? Peux-tu effectivement dire que tu cherches à travailler dans le royaume de Dieu? Et je ne parle pas ici d'occuper un ministère qui fait que tu abandonnes ton emploi de tous les jours. Mais dans ton emploi de tous les jours, tu peux aussi travailler pour Jésus. Dans ton voisinage, toi qui es peut-être à la retraite, dans ton voisinage, tu peux et tu devrais et tu dois travailler pour Jésus. Dans les clubs sociaux auxquels tu appartiens, tu peux, tu devrais et tu dois travailler pour Jésus. Il doit y avoir une différence qui est marquée dans ta vie par la simple mais ineffable présence de Jésus en toi. Alors je te pose la question, est-ce qu'effectivement la présence de Jésus dans ta vie a marqué le cours de ton existence? Ou plus ou moins es-tu encore la même personne? Je faisais ça avant, puis je le fais plus ou moins maintenant encore. Ben, je le faisais plus ou moins avant, puis j'ai tout simplement continué. Il doit y avoir une démarcation profonde, majeure, entre avant Jésus et après la rencontre avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, tu ne vivais que pour toi. Donc, les choses que tu vivais pour toi-même, inspirées par ta pensée humaine pécheresse et défaillante, devraient avoir laissé le pas, devraient avoir cédé le pas à la pensée de Jésus qui est parfaite, qui est excellente et qui vise à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, il y a ce fameux cantique « Grâce infinie » qui dit que nous étions aveugles, mais que maintenant je vois. Aveugle, mais maintenant je vois. Mais maintenant que tu vois, maintenant qu'effectivement tu peux chanter cet hymne si célèbre et si populaire, est-ce qu'effectivement les paroles de ce cantique font que maintenant que tu es voyant, tu as changé de statut? Tu es passé du mendiant spirituel au travailleur spirituel, homme régénéré pour travailler à l'œuvre de Dieu. La question pour toi et pour moi ce matin, sommes-nous en train de travailler pour Dieu, en dépit de l'opposition parce qu'on a essayé de nous lapider en sortant du temple, en dépit des circonstances qui sont défavorables, je continue à travailler. Et cet aveugle, touché par le Maître, touché par Jésus, touché par le Seigneur, lui-même va être mis à part pour travailler pour le Maître. Dieu veut t'utiliser même aujourd'hui. Dieu veut t'utiliser même dans les circonstances présentes. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu ne laisses pas passer cette journée sans être profitable pour le Roi des Rois et pour le Seigneur des Seigneurs. Sans être profitable pour ton Sauveur et pour l'avancement de son royaume. Alors c'est ton défi et c'est mon défi pour aujourd'hui. Permettez-moi de prier pour nous tous, après quoi on se quittera pour aujourd'hui, pour ce matin du moins. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant. Seigneur, à ton instar, nous voulons oublier les circonstances qui sont peut-être défavorables et nous porter vers l'avant. Et voir, Seigneur, les besoins des gens autour de nous comme une occasion, Seigneur, de faire éclater ta gloire. Nous voulons, Seigneur, arrêter de nous stopper simplement à des idées, à réfléchir, à savoir est-ce que ça vient de l'un, est-ce que ça vient de l'autre, ou le pourquoi d'une chose. Nous voulons simplement, Seigneur, voir ta gloire éclater. Très souvent, Seigneur, à s'interroger et à se poser des questions futiles, d'où vient cette situation? On oublie, Seigneur, même de transformer la situation en tant que telle par la puissance que tu nous donnes et que tu nous accordes. Seigneur, très souvent, on veut simplement se poster à l'avant, sur l'avant-scène avec un titre, avec la manifestation d'un don qu'on ne méritait pas de toute manière et que si on l'a, vient strictement de toi. Mais c'est l'occasion, Seigneur, de s'afficher comme si on était maintenant quelqu'un parce qu'on a compris, on a saisi ce que quelqu'un d'autre n'aurait pas compris ou n'aurait pas saisi. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi, que tout ce que nous sommes vient de toi, que tout ce que nous pouvons vient de toi. Aucun d'entre nous, Seigneur, n'a quelque mérite que ce soit. Tout ce que nous sommes et nous avons, nous le tenons de notre Maître et de notre Seigneur. Seigneur, parfois on s'arrête à des questions futiles alors que tu veux simplement faire éclater ta gloire par les situations et par les circonstances qu'on traverse. Je prie, Seigneur, que tu trouves chez ma sœur et chez mon frère de tels serviteurs et servantes qui, avant, Seigneur, de saisir une chose, voient une occasion de servir. Seigneur, avant de s'afficher de quelque manière que ce soit, ils voient une occasion d'être utile et profitable pour leur maître. Je prie, Seigneur, que tu agrées ce désir de travailler, ce désir, Seigneur, humble de te servir chez ma sœur et chez mon frère, que tu étendes ta main et que tu te manifestes à travers lui et à travers elle, ô Dieu. Je prie, Seigneur, aussi que tu aies une présence qui a un tel impact dans la vie de ma sœur et de mon frère, que leur vie, Seigneur, en soit chamboulée. Seigneur, ça serait illogique que le roi des rois vienne prendre la place dans nos vies et que nos vies, né, Seigneur, n'en soient pas transformées et n'en soient pas, Seigneur, modifiées de façon profonde et viscérale. Alors je prie, Seigneur, si mon frère et ma sœur semblent encore vivre la même vie qu'avant, tu les amènes vraiment, Seigneur, à une période de transformation et de changement. Seigneur, si mon frère et ma sœur sont encore spirituellement, Seigneur, handicapés comme cet homme aveugle, que tu puisses étendre ta main, Seigneur, et que tu fasses d'eux des serviteurs et des servantes, puissants et puissantes pour ton royaume. Je prie, Seigneur, que tu trouves chez eux ce désir d'être utilisé pour la gloire du roi. Je prie, Seigneur, que tu trouves chez eux ce désir ardent d'être actif, impliqué dans l'avancement de ton royaume, et que tu les bénisses, Seigneur, dans leur travail. Renouvelle leur force, renouvelle, Seigneur, le courage de ceux qui pourraient être abattus ce matin, ceux qui pourraient être inquiets ce matin. Étends ta main et donne-leur, Seigneur, l'hardiesse, donne-leur, Seigneur, le courage d'aller de l'avant. Et donne-leur le courage, Seigneur, de ne pas s'arrêter aux circonstances d'aujourd'hui, mais d'y voir simplement l'occasion pour que ta gloire ineffable puisse éclater dans leur vie, à travers leur vie, et pour, Seigneur, leur environnement et les gens qui les entourent. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère, que ta grâce soit avec eux durant toute cette journée. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, vous êtes très nombreux ce matin, plus que d'habitude encore, donc je ne pourrai pas prendre le temps de saluer tout le monde. Ceux qui sont sur le réseau à travers Facebook de l'Église, que Dieu vous bénisse. C'est l'occasion à vous là pour vous dire au revoir et puis vous saluer dans ces dernières minutes là. Donc saluez-vous pendant que moi je vous salue. Donc je vous rappelle nos rendez-vous. Ce soir, on a l'étude biblique. On continue notre temps de partage et de recherche de la face de Dieu et d'étude des béatitudes du sermon sur la montagne. Donc, on vous invite à être là ce soir. C'est à partir de 19h. Donc, ce sera sur le réseau Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, on vous rappelle qu'en passant par la page Internet de l'Église, vous allez au bas de la page d'accueil et vous avez un onglet qui s'intitule Suivez-nous via Facebook. Et vous cliquez dessus. Et même si vous n'êtes pas un membre de Facebook, vous aurez alors l'occasion de voir en direct. C'est tout pour aujourd'hui. Pour les autres qui ne seront pas là ce soir, on se retrouve donc demain matin, toujours à 8h30, pour une autre période de prière, d'étude de la face de Dieu et de bénédiction matinale. Alors aujourd'hui, soyez profitables pour le royaume de Dieu. Soyez profitables pour le roi des rois. Aujourd'hui, que le Seigneur puisse faire en sorte que votre journée soit fertile pour sa cause et qu'à la fin de la journée, vous puissiez avoir un sceau d'approbation de la part du Seigneur qui est apposé sur vous, comme ayant été les serviteurs que vous deviez être, ayant accompli le travail que vous deviez accomplir. Alors que Dieu vous bénisse, et pour la plupart, je suppose, on se retrouve ce soir, 19 h, pour notre temps d'études bibliques, ou sinon 8 h 30 demain matin. Alors au revoir et bonne journée à tous.